Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de France 2022. Pour l'occasion, je suis accompagné de Jean-Sébastien Barbeau, un revenant. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou, très content d'être de retour.
C'était comment les vacances?
Oh, les vacances étaient extraordinaires dans le Nouveau-Brunswick. Il faisait beau, il faisait chaud, il n'y a pas eu trop de pluie, c'était génial.
Et en plus de ça, tu étais à Grand Manane et non Grand-Maman.
Exact. Petite île dans la baie de Fundy, tout simplement magnifique, aucun touriste.
En plus, donc si jamais vous voulez aller au Nouveau-Brunswick, c'est le bon moment.
Ah oui, c'est le bon spot.
Mais c'est aussi le bon spot pour regarder de la Formule 1, si ça a été le cas en plus.
La connexion Internet, par contre, n'est pas nécessairement très rapide. Moi, où j'étais, le cottage, c'était un petit peu difficile. Donc, le Grand Prix d'Autriche, il y a deux semaines, c'était pas simple.
Ah, OK. Mais au moins, tu es revenu à temps pour le Grand Prix de France.
Est-ce que c'était... À mon grand malheur.
Ouais.
On va se dire, c'était pas le Grand Prix le plus excitant. C'était peut-être un des meilleurs Grands Prix de France des dernières années, mais bon, ça... La France est maudite, elle n'a pas de bon circuit de Formule 1.
Ouais, et je pense qu'ils n'ont pas choisi le bon tracé de Paul Ricard, si on peut.
Non, encore une fois, je pense qu'on peut revenir à l'idée de pourquoi mettre une chicane en plein milieu d'une ligne droite.
Ouais, c'était peut-être pas la meilleure chose.
Non, surtout avec un DRS, surtout avec des voitures qui suivent plus proches. On élimine, on continue, puis on sauve 10 secondes par tour, donc on se serait sauvé au moins 5 minutes de Grand Prix.
Ah, définitivement. J'abonde avec toi là. J'avais comme l'impression que ça durait 2 heures. Et d'ailleurs, la course s'est terminée en 1h30. Une course remportée par Max Verstappen devant Lewis Hamilton, dont c'était le 300e Grand Prix cette fin de semaine. Et George Russell complète le podium. Donc, c'est le premier double podium de Mercedes cette saison. Sergio Perez, et on va en reparler de Checo, 4e. Oh. Carlos Sainz, parti 19e, termine 5e. Fernando Alonso termine 6e. Lando Norris, 7e. Esteban Ocon, 8e. Daniel Ricciardo, 9e. Et Lance Stroll complète le top 10. On a perdu 4 pilotes. Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda et Charles Leclerc.
5, en fait, parce qu'il faut aussi ajouter Zhou Guan Yu.
Oui, c'est vrai. Ouais, Zhou Guan Yu aussi a abandonné, causant la voiture de sécurité virtuelle. C'est un abandon en soi, mais il est officiellement classé, vu qu'il a complété 90% de l'épreuve. Mais on va reparler de Charles Leclerc, mais tout de suite après, les fameuses évaluations. Donc, Jean-Sébastien, quelles sont tes performances au top, contre-performances et moments cocasses?
Bon, alors, performance au top, on va le donner tout de suite à Carlos Sainz. Il a été déclaré également pilote du jour par 40% des téléspectateurs. Wow. Ça tombe sous le sens parce qu'il n'y avait personne d'autre à identifier. Carlos Sainz, n'eût été de ses pénalités moteurs et hydrauliques et tout le reste qui a été changé, aurait gagné le Grand Prix de France, à mon avis, aujourd'hui, mais par une marge, c'était... Il était au-dessus de tout le monde. Il avait eu un rythme de fou à ce Grand Prix. C'était vraiment impressionnant. Ouais. C'est juste dommage qu'il est obligé de s'arrêter à quelques tours de la fin parce que ses pneus étaient en piètre condition. Mais je pense qu'il aurait pu finir sur le podium. Puis il y aurait eu un très très bon résultat. Mais bon, c'est dommage pour lui. Mais je pense que ça lui donne la confiance pour la suite. Il sait qu'il a un bon rythme. Je pense qu'il a compris comment fonctionne la voiture. Ouais. C'est juste que le début de saison était un petit peu catastrophique, donc là, il faut qu'il répare un petit peu les pots cassés. Donc. Mais non, c'est lui le pilote du jour. La contre-performance du jour va évidemment à Charles Leclerc pour une raison évidente. Il a fait la faute quand il a tapé le mur, lorsqu'il a perdu le contrôle. C'est pas juste une question de pneus, c'est pas juste une question d'accélérateur. Là, en fait, la pédale d'accélération, c'est une faute qu'il a fait. Il était très dur envers lui-même, trop dur peut-être. Il y a une forme de anger management, de mind management. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. À Sky Sports, on disait que Jack Clear est de retour pour coacher justement Charles Leclerc, justement sur ces aspects-là. Ça semble marcher, mais il y a besoin de plus.
Ouais.
Il manque pas grand-chose. On a déjà vu un Max Verstappen avoir des problèmes similaires. Là. Il manque pas grand-chose pour que ça se corrige. J'ai bon espoir, mais quand même là, maintenant, il y a quoi, 52 points d'écart au championnat, quelque chose comme ça? On dépasse la cinquantaine? 63,
ouais.
Donc, on commence à faire beaucoup, mais je suis persuadé qu'on peut corriger la chose.
Oui, je suis d'accord. Puis même, je sais pas si tu as entendu les conversations d'après dans la chambre avant le podium, mais je crois que tu avais l'ingénieur de Red Bull qui disait que apparemment la pédale était bloquée, mais ça revient un peu aussi à la faute de Leclerc, peut-être. Ben, fort probablement à une faute de Charles Leclerc aussi.
Ouais. On peut pas mettre un blâme sur Mathias Binotto. Je veux dire, le gars essaie de tout faire. L'équipe est en bien meilleure position qu'avant, que quelques années.
Ouais.
Il y a du driver management. Ça va au-dessus de lui jusqu'à un certain point. Et après, le moment cocasse. Il y a quand même un moment cocasse. Puis après aussi, genre, j'ai l'air d'un foin. On va ramener quand même cette magnifique catégorie qu'on n'a pas souvent l'occasion de ramener.
Ouais.
Le moment cocasse, évidemment, c'est le cri de Charles Leclerc qui sera repris par tous les YouTubers et qui sera repris par Netflix dans Drive to Survive. Je mets ma main au feu que ça va être réutilisé. C'est sûr que ça va être là.
Ça a déjà commencé.
Définitivement que ça va être là. C'est déjà en train de troller sur Internet. Donc, ouais. Aucun espoir par rapport à ça. Puis finalement, j'ai l'air d'un foin. Il s'ignore Checo Pérez pour avoir dormi lors de la relance. Comment tu peux dormir autant à la relance de la voiture de sécurité virtuelle? Wow. Je ne me l'explique pas.
Wow, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça, là, parce que... Et Russell, il avait préparé le coup en plus.
Ah oui, on le voyait, le coup de poker qui se déroulait, on accélère, on décélère. Mais Perez, tu le voyais, mais il s'est fait avoir comme un gamin là-dessus. Oh. Mais c'est...
Et ça coûtait un podium.
Coûte un podium. Oui, ça coûte 3 points au championnat, c'est pas si grave, mais ça coûte un podium.
Ouais. Ça fait mal. Et ça, ouais. Je suppose pour Checo, il va le regretter d'avoir dormi comme ça, parce que sérieusement, là... Wow!
Il y a juste deux choses que j'aimerais ajouter quand même sur Russell, puis après sur Mercedes. La première, c'est... Il y a 2 semaines, dans le balado d'entrevue de Formule 1 avec Tom Clarkson, Beyond the Grid, il y avait George Russell en entrevue. Et dans cette entrevue-là, c'est mon sentiment personnel, je vais me faire lancer des briques, je le sais. J'ai trouvé George Russell d'une arrogance assez, d'une confiance assurément qui frise l'arrogance. Et pendant le Grand Prix, lorsque tu l'entends critiquer Perez ou les autres à différents Grands Prix, je retrouve cette forme de surconfiance, limite arrogance qu'il a de se penser meilleur que les autres. Je trouve ça dangereux.
Ouais.
Pas nécessairement la meilleure attitude que j'ai trouvée, mais c'est peut-être juste une très mauvaise lecture de ma part.
Ouais, je pense aussi. Bah, j'ai pas écouté le segment Beyond the Grid avec George Russell encore, mais ouais, quand même, je le vois un peu avec un petit peu un excès de confiance maintenant qu'il est arrivé chez Mercedes.
Ouais.
Mais heureusement, la voiture n'est pas encore au point comme elle était.
Ben, exact.
Et loin d'être au point que ce qu'il était l'année dernière. Mais...
Exact. Et le second point sur lequel je vais essayer d'aller, c'est du côté de Mercedes. On a entendu Toto Wolff féliciter Lewis Hamilton pour le résultat en disant « Oui, on se rapproche. » Dans l'absolu, oui, il se rapproche. Mm-hmm. Mais dans les faits, non. La contre-performance des deux Ferrari fait en sorte qu'ils sont sur le podium. Et la contre-performance aussi d'avoir... De Perez qui était prêt en train de dormir. Mais sinon, cette Mercedes est encore très loin. Est encore très, très loin de gagner une course légitimement. Oh oui. C'est-à-dire dépasser les Ferrari, dépasser les Red Bull pour gagner le Grand Prix 1 et puis voir aucun abandon de la part des deux top teams en avant. Là. Si Mercedes gagne une course, ça sera en raison d'un concours de circonstances qui va les avantager. C'est
ouais.
tout. Cette saison-là. Yo. Je vois difficilement comment ils peuvent gagner un Grand Prix légitimement.
Ouais, ben disons, c'est ça. Moi je crois toujours à Hongrie ou bien Singapour, mais parce que ce sont des circuits beaucoup plus techniques où justement la vitesse de pointe n'est pas un gros désavantage pour eux. Mais c'est vrai que le rythme de course et encore loin d'être au niveau des Ferrari et Red Bull jusqu'à présent. C'est encore loin.
Je trouvais commenter un peu de la part de Toto Wolff un peu hors propos parce que c'est pas tout à fait vrai quand même. Mais je comprends qu'il est là pour motiver tout le monde. C'est normal.
Exactement.
Bref, parlons du Grand Prix.
Ouais. Et puis, avant, je vais juste donner mes évaluations.
Oui, bien sûr.
En fait, j'ai pas de performance au top. Jean-Sébastien, tu sais pourquoi, je te l'ai expliqué, mais mais je vais l'expliquer en fin de balado. Donc, restez là parce que la performance au top ne vient pas d'un pilote de Formule 1 en général, mais j'ai des mentions honorables. Évidemment, Max Verstappen, bon, c'est un cadeau, mais il a été... Oui. Mais ouais.
J'ai vu notre ami Pierre Maillot relever que Max Verstappen égalise le nombre de victoires de Jackie Stewart aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc... il était déjà dans le top 10 avec sa victoire. Maintenant, il rejoint ce Jackie Stewart. Donc, on peut dire déjà qu'il fait partie des grands, des plus grands.
Oui, il marque déjà l'histoire quand même de passer Jackie Stewart, c'est pas rien. Hein?
Exactement. Donc, félicitations à Max. Donc, ça, c'est une mention honorable. Aussi, Carlos Sainz, pilote du jour. Qui a fait le travail de mécano et de pilote en même temps. Sinon, ben, mention honorable à Fernando Alonso. On n'en a pas beaucoup parlé d'Alpine parce qu'évidemment, la direction TV était moyenne. Mais
toi, tu as regardé le Grand Prix sur RDS, hein?
Non, sur F1 TV avec F1 Live.
Avec F1 Live. Moi, je l'ai regardé sur F1 Live, mais avec Sky Sports. Et eux, à un certain moment donné, parlaient que Fernando Alonso aurait peut-être pu gagner le Grand Prix, mais je m'explique absolument pas comment il aurait pu gagner le Grand Prix.
Non, je ne pense pas. La Alpine était loin d'être... La Alpine, oui, elle était bonne aujourd'hui, mais très loin du compte.
Très loin du compte, je suis d'accord.
Donc, je vois pas l'explication de dire qu'Alonso aurait pu...
Mais la Alpine va bien.
Oui, oui. D'ailleurs, c'est un septième Grand Prix consécutif dans lequel Alonso marque des points. Donc, mention honorable à Fernando Alonso. Contre-performance, ben, Ferrari dans l'ensemble.
Ah oui.
Je pense qu'on va en reparler. Moment cocasse, c'est vraiment à l'extérieur de la course en tant que telle. C'est Combini. Qui a
la page Facebook, le média, là.
Exactement. Qui est allé, ben en fait, Lucy Bacon, qui est allé parler avec Toto Wolff pour lui demander une blague. Et Lucy a raconté une blague de Toto.
En français?
En français.
Oh non, une blague de Toto, c'est tellement français comme blague. Oh non.
Ouais, je me souviens plus de la blague, mais je pense que c'était en lien avec les toilettes.
Oh, c'est de Jaina.
Ouais. C'était vraiment con, mais c'était vraiment drôle. Donc, ouais, c'était mon moment cocasse. Donc...
Oui, est-ce qu'on peut aussi dire comme moment cocasse, félicitations à la Fédération française de la Loose pour son drapeau?
Oui, oui!
Si vous connaissez pas la Fédération... française de la Loose, allez voir ça sur Facebook ou sur Twitter. Vous allez adorer. Allez, Julien, Alain Philippe. Hein?
Oui, Julien Alain Philippe. Oui, effectivement, on salue Julien Alain Philippe, le coureur au Tour de France. et d'ailleurs, la Fédération française de la Loose qui a fait un tabac solide là-bas. Et je pense que Julien Fébreau portait un chandail de Julien Alain Philippe.
Exact, le commentateur, le descripteur de Canal+.
Yes, et j'espère qu'il le portait aussi pendant le Grand Prix lorsqu'il a vu Max Verstappen gagner. Avec l'abandon de Charles Leclerc, et le fait qu'il y a 63 points d'avance entre Verstappen et Leclerc, est-ce qu'on peut parler tout de suite d'une option de gagner le titre un peu plus tôt du côté du Néerlandais?
Il reste beaucoup de Grands Prix. Question légitime. Je dirais non. On se souviendra l'année passée, en 2021, autour de cette période-ci de l'année, il y avait quoi? 43 points d'avance pour Verstappen. Puis en deux Grands Prix, il a à peu près tout perdu.
Ouais.
Il faut juste un abandon puis une mauvaise performance. Puis tout se replace vite. La Hongrie, c'est souvent une boule un peu difficile à évaluer. C'est un peu la boule de quille pour en Formule 1, quand même, la Hongrie, là, autant il peut rien se passer, autant il peut tout se passer.
Faut pas dire ça en présence de Bata, ce boule de quille.
Non, c'est vrai en plus. la boulette. Et après la Belgique, ben, encore une fois, un peu de pluie, puis tout se replace, mais ça peut donner un avantage certain à Verstappen. Donc, mais au moins, il y aura les vacances, donc tout le monde pourrait essayer de se reposer. Oui, sans doute. Du moment qu'on dépasse 50 points, du moment qu'on dépasse deux grands prix d'avance, je pense qu'on peut toujours penser à ce qu'on peut prendre l'option, mais pour les équipes, c'est beaucoup trop tôt.
Ouais.
C'est jamais, il n'y a jamais assez de points. C'est peut-être à partir de 75 qu'on pense qu'on peut prendre le championnat plus tôt, mais on ne peut jamais jouer ça. Il faut toujours tout mettre sur la table.
Exactement. Puis d'autant plus aujourd'hui, je pensais, parce qu'à un moment donné, au début de la course, Verstappen talonnait Leclerc, parce qu'évidemment, c'était les lignes droites de la Red Bull contre l'appui en virage
les virages.
Paris. Puis, à un moment donné, tu voyais dans le dernier secteur, Leclerc était vraiment au-dessus de Verstappen, autant que dans le deuxième secteur, là où il y a la ligne droite entrecoupée du Mistral, Verstappen avait le dessus. Donc, je me demandais, si Leclerc n'avait pas eu cette erreur, est-ce que Verstappen aurait vraiment gagné ce Grand Prix?
Pas sûr,
parce que je ne pense pas que le rythme de la Red Bull contre Leclerc était, du moins sur le premier relais, significatif, d'autant plus que Leclerc était capable de résister. Donc, je me disais, si c'était une course à un arrêt, ce qui a été le cas pour Verstappen,
oui.
Mais je pense que Verstappen aurait fini deuxième.
Il aurait fini deuxième.
Ouais.
Il aurait fini deuxième, puis on n'aurait peut-être même pas vu une Mercedes sur le podium.
Exactement. Donc, moi, je pense que Verstappen se donne une grosse option pour la suite. Évidemment, on est déjà dans le début de la deuxième moitié de saison, mais je trouve que Verstappen devient de plus en plus mature. Même s'il était déjà au moment de sa consécration l'année dernière.
Ouais, il a pris en galon, chose que Leclerc n'arrive pas à faire. Gagner, ça transforme des gens, on le sait.
Ouais.
On le souhaite pour Leclerc, parce que Leclerc gagnant est très difficile à battre, ça ferait des super championnats. Mmh. On l'a vu en début de saison, comment les dépassements pour la tête étaient très, très excitants.
Oui.
Là, c'est dommage.
Et
c'est dommage que les Grands Prix ne sont pas bons. Là.
Ah non, écoute.
Un abandon comme ça tue le Grand Prix.
Ah oui, et puis justement, parlant de Leclerc.
Même si le Grand Prix est ennuyant, là.
Ouais, ouais.
Hands down, là.
Ouais, soyons honnêtes, c'était pas
le même. Soyons honnêtes, là. La personne qui dit mon Grand Prix préféré, c'est le Grand Prix France, là, c'est parce que tu y vas, c'est tout.
Ben
écoute. C'est pas pour l'action en piste. Puis même pour y aller, c'est super chiant, on l'a vu. Jenny Gao, la journaliste de BBC 4 Live, a été prise dans le trafic pendant plusieurs heures pour savoir nous circuler encore ce matin.
Oh non, pas encore!
Encore. C'est des routes départementales. Si vous ne connaissez pas le lieu, déjà le Paul Ricard, c'est à 45 minutes au nord-ouest de Marseille. Le seul moyen de pouvoir accéder au circuit, c'est en voiture ou en avion, si vous êtes riche, évidemment. Mais comme vous et moi, on se déplace en voiture. Il n'y a pas de train qui vous amène jusqu'au circuit. Il y a un train qui vous amène à peu près jusqu'à mi-chemin, puis après, il faut prendre ensuite des autobus ou des voitures. Mais donc, imaginez à peu près 110 000 personnes qui se pointent sur des routes départementales depuis le coin de Marseille, depuis peut-être le coin de Nice qui est un petit peu plus loin, mais quand même, Marseille étant la ville la plus proche, et tout le monde, par un goulot d'étranglement, se remet sur des routes départementales à une voie, évidemment.
Wow.
Donc, c'est une catastrophe.
Donc, ça veut dire le podcast de Checkered Flag sur la BBC va être magnifique maintenant qu'elle a manqué une bonne partie de la course.
Non, non, elle était là pour le Grand Prix, mais ce matin, elle était prise dans le trafic, mais quand même.
Ouais.
Elle était à proximité du circuit quand elle a mis sa vidéo sur Instagram. On voyait la piste de l'aéroport, donc on savait qu'elle était à côté du circuit, mais il y a un moment donné où... Oui, c'est une catastrophe, ce lieu-là. Donc, 70 000 personnes, c'est le maximum que le circuit peut accueillir et c'est beaucoup trop par rapport à ce que les routes départementales peuvent accueillir.
Raison de plus pour laquelle je souhaite que le Grand Prix de France disparaisse du calendrier.
Alors qu'il y a un endroit où on peut faire le Grand Prix, c'est au Mans.
Ouais.
Il y a l'autoroute.
Oui.
L'autoroute payante.
Exact. Donc, si jamais quelqu'un veut mettre de l'argent aussi pour accueillir la Formule 1, ben, faire revenir la Formule 1 au Mans. Allez-y, parce que c'est un sacré bon circuit. Surtout comment il s'appelle?
La version Mugello, la version pour le Grand Prix moto.
Oui, exact. Le circuit Bugatti.
Le Bugatti, oui, c'est ça.
Ouais, mais... Ouais, écoute, s'il y a quelqu'un qui a qui a peut-être envie de rester dans d'être pris dans le trafic, c'est Charles Leclerc.
C'est Charles Leclerc qui, lui, au moins, peut retourner à Monaco relativement facilement, parce que Monaco, à partir de là, c'est quoi? C'est 1h30 de route à peu près, du moment que tu peux t'en sortir.
Ouais.
Mais ouais, Charles Leclerc, pauvre garçon.
Pauvre garçon.
C'est pas drôle.
Non. T'es, normalement, je me serais mis à Dis Ferrari. Mais là, ça commence à en faire trop. Puis, t'sais, quand je dis sur Twitter, ou bien même avec vous, Ferrari being Ferrari, là, ça commence à être redondant parce que
Ferrari being Ferrari, c'est une mentalité où on voit que Ferrari ne sait pas ce qu'elle fait. C'est pas le cas de cette faute-là. Ferrari being Ferrari, c'est demander au pilote, est-ce qu'on devrait faire le plan B ou tu veux sticker avec le plan A? Pilote conduit, il n'y a pas le temps de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Là. C'est à l'équipe de décider.
Ouais.
Ça, c'est Ferrari being Ferrari. Mais non, c'était une catastrophe. L'accident de Leclerc, la mauvaise gestion des pneus, le unsafe release.
Oh!
Ça, il était dangereux, celui-là.
Ah oui, écoute, ça, c'était... Et je disais ça, je pense, personnellement, c'est peut-être la pire, excluant Baku, c'est peut-être la pire course de Ferrari cette saison.
Oui.
Parce que...
On n'espère pas d'autres.
On n'espère pas d'autres, mais ils ont vraiment échappé le ballon solide. Parce que on parle beaucoup de Charles Leclerc, de son erreur qu'il a admise. Bon, il y a encore... Moi, j'ai encore un petit doute sur concernant l'histoire de la pédale dite par Red Bull et tout. Mais ça reste que c'est une erreur. C'est une erreur très coûteuse à ce moment-ci de la saison. T'as, en même temps, on en parlait, la sortie au plus dangereuse qui m'a fait penser
à... Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un safe release dangereux comme ça.
Ah ouais, qui m'a vraiment fait penser à Singapour 2008, moins le ravitaillement en essence.
Ouais, ouais.
T'as l'ingénieur de Carlos Sainz qui lui parle de plan B, plan D, plan je ne sais pas
oui,
quoi.
Oui, quel plan t'as envie de prendre? Est-ce que le plan B t'intéresse? Mais...
Et même la décision de rentrer au puits, même ça, là, Sainz était... T'es au pire, prends le 5 secondes de pénalité parce que après la course, parce que Sainz avait un rythme de fou. Mais là, il décide de le faire entrer. Oui, je peux comprendre. Peut-être peut-être il y avait une question des pneus médiums s'il allait tenir jusqu'à la fin. Mais de le faire rentrer à ce moment-là, alors qu'il venait de dépasser Sergio Perez.
Le faire rentrer, admettons que Ferrari savait que les pneus ne pouvaient pas se rendre jusqu'au bout. On aurait dû le faire rentrer obligatoirement plus tôt parce qu'il roulait 2 secondes plus vite autour.
Oui.
Il aurait peut-être pu remonter un peu plus vers Alonso, mais Alonso était à 20 secondes devant.
Mm-hmm.
Donc, dans ce cas-là, il aurait fallu le garder en piste.
Ah oui, clairement. Et là, peut-être si on parle d'une 5e place, ça aurait peut-être pu être une 4e, voire même un podium pour ça.
C'est un podium qu'il attendait.
Ah oui, puis je suis sûr que Carlos va énormément maugréer auprès de la Scuderia dans le debriefing. Là. Je ne sais pas si ça a lieu en ce moment ou au moment où on enregistre, mais Carlos va demander tellement d'explications parce que...
Sainz était à 9 secondes de Perez au final.
C'est ça. Il était à 9 secondes.
Mm.
Donc, il pouvait carrément le rattraper.
Si on l'arrêtait 4 ou 5 tours avant, il aurait peut-être pu le rattraper.
Ouais.
Mais en même temps aussi, est-ce que le pneu tendre aurait pu durer 4 ou 5 tours de plus? C'est pas sûr.
C'est ça. Surtout qu'il faisait très chaud sur la piste.
Oui, la température de la piste était à 60, on pouvait faire cuire un nouveau plat.
C'est ça. Donc, je pense que Ferrari doit se poser des questions et personnellement, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à voir Ferrari être une équipe digne de ce qu'elle était et puis une équipe qui est capable de remporter un championnat du monde.
Parce que c'est pas juste les pilotes qu'il faut limiter les fautes, c'est l'équipe aussi qu'il faut limiter les fautes. Les pilotes font tout ce qu'ils peuvent.
Oui.
Mais l'équipe fait trop de fautes.
Voilà.
Les pilotes sont très bons. Les deux pilotes sont capables de gagner le championnat du monde, clairement.
Oui, puis tu disais juste...
Tu les mets dans une Red Bull, puis ils vont gagner.
Puis tu vois, justement, je viens...
Tu mets Verstappen dans une Ferrari, pas sûr qu'il va gagner.
Non, mais il aurait peut-être pété un plomb contre...
Ah oh oui, non, il aurait pété un plomb, c'est clair.
Ouais.
Son père aussi aurait pété un plomb.
Ah oui, j'en suis sûr. N'importe qui aurait peut-être pété un plomb, là, solide. Mais et puis justement, je viens de tomber sur un tweet qui dit « Est-ce que Ferrari utilise la boule magique, la boule 8 magique? »
The 8 ball.
Ouais, the magic 8 ball pour décider de leur stratégie de course. Moi, je pense, je ne serais pas surpris si c'était le cas. Mais ouais.
Ah oui, non, mais là, c'est une catastrophe.
Ouais, non, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Mais à l'inverse, tout ça a donné un double podium à Mercedes, surtout pour Lewis Hamilton, qui, étonnamment, c'est son meilleur résultat de la saison. Après 12 courses, il enregistre son meilleur résultat de la saison, une deuxième place à son 300e Grand Prix en carrière. Et George Russell qui finit troisième, on en a parlé en fait de son dépassement sur Sergio Perez à la fin de la voiture de sécurité virtuelle, va rester dans les annales de cette saison. Mais pour revenir à Lewis Hamilton, ce qui l'a vraiment aidé, c'est son départ.
Un superbe départ. Il partait cinquième. Non, il partait quatrième.
Ouais, ouais.
Il n'a plus dépassé Checo Perez très facilement. Aurait peut-être pu même dépasser Charles Leclerc. Pas Charles Leclerc, mais plutôt Max Verstappen. Mais Verstappen a connu aussi quand même un départ, mais pas terrible. Mais super départ de la part de Lewis Hamilton qui a pu garder le rythme. Étonnamment, la voiture pas tant marsouinée, il me semble.
Ouais, non, je pense que la Mercedes va de mieux en mieux.
La Mercedes va de mieux en mieux. Peut-être que finalement, la modification au règlement n'est peut-être pas si nécessaire. Mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, Lewis Hamilton en très, très grand, en très grande performance dans un grand jour. Je pense qu'il aime beaucoup ce circuit-là, en plus.
Oui, oui, parce qu'évidemment, bon, à part l'année dernière, incluant l'année dernière, Mercedes a été très compétitive. Évidemment, Hamilton gagnant en 2018 et en 2019 aurait pu gagner, amener la majeure partie de l'année dernière. Puis, même pour une première fois cette saison, première ou deuxième fois cette saison, je pourrais dire Hamilton a été chanceux avec la voiture de sécurité. Parce que au moins, le fait qu'il se soit arrêté au moment où Leclerc accidente sa voiture lui a permis de garder sa position derrière Verstappen. Donc, au moins, ça lui a permis de bien gérer. Puis même quand il était devant Perez en début d'épreuve, il a été capable de faire de la bonne gestion de pneus en plus. Donc, ça l'a vraiment aidé.
Exact. C'est juste con parce qu'il finit deuxième, mais on ne l'a pas vu.
Non. C'est une rare course anonyme de la part de Hamilton.
Oui. Donc, vraiment.
C'est tant mieux pour lui parce qu'au moins, pour son 300e Grand Prix, c'est un bon cadeau. Puis en plus, on a appris qu'il conduisait sans boire de l'eau.
Oui, pour alléger la voiture.
Oui, exactement. Puis,
ça, c'est quand même limite dangereuse. Hein.
Oui, parce que je me souviens, Marcus Ericsson faisait ça régulièrement aussi quand il était en Formule 1. Puis certes, ça l'aidait un peu, mais c'est ça.
Mais ça devrait être obligatoire, on devrait imposer au moins un litre d'eau au pilote pendant le Grand Prix. Ouais. Il devrait y avoir quelque chose de minimum de requis obligatoire.
Ouais, parce qu'on a vu Hamilton en train de se...
Il était par terre.
Par terre
dans la green room.
Ouais, parce que ça, il y a une énorme vague de chaleur. Il porte
en plus, ils ont des vêtements noirs. Donc,
c'est ça.
Ça rend la chose plus chaude. Sur Sky Sport, on disait... au lieu d'avoir une boisson énergisante ou de l'eau, on pourrait peut-être mettre du thé à l'intérieur. Moi, ça donnerait un goût. Comme la bouteille se réchauffe, ça rend le thé un peu plus digeste, par exemple. Ouais. Il y a peut-être d'autres solutions, mais non. L'imposition d'un bidon d'eau devrait être obligatoire.
Ouais, parce que sérieusement, là, tu joues avec la santé. Oui, évidemment, on a tous vu ces images de Nigel Mansell s'effondrer lors du...
Oui, à Détroit 85, mais...
Ouais.
Ou Häkkinen se faire verser un seau d'eau après le Grand Prix de Hongrie en 98
ou 99. Ouais, puis Fernando Alonso, Bahreïn aussi en 2009, presque.
Oui, il est assis sur le podium.
Ouais, donc... Non, c'était...
Non, non. C'est quelque chose qui est à régler. Je pense que ça devrait être une des prochaines étapes sur la liste des projets de la FIA de rendre le bidon d'eau obligatoire.
Ouais, sérieusement, là, c'était quelque chose. C'est quelque chose qui est un peu inquiétant. Mais parlant d'inquiétant, qu'il est beaucoup moins. George Russell qui dépasse Sergio Perez, mais ça, moi, je suis vraiment inquiet pour Sergio Perez parce que pour moi, il n'était pas là du tout.
Non, la voiture n'était pas super performante. Je comprends pas exactement qu'est-ce qui est arrivé avec Checo Perez. On va sans doute le savoir au cours des prochaines heures. Course anonyme aussi. On l'a vu souvent, mais c'était pas intéressant. Il y avait peu de choses à montrer lui. Il s'est fait prendre comme un gamin, comme on vole une sucette à un enfant.
Ouais.
C'était aberrant.
Non, vraiment.
Simplement aberrant.
Vraiment. Puis, je pense que c'est comme quelqu'un de la monoplace disait, George Russell is the type of guy who cuts, George Russell is the type of guy to catch you sleeping on the restart.
Exact.
C'était pas mal ça. Donc, vraiment, George Russell a fait une bonne course. Bon, il y a eu peut-être le moment où la touchette entre les deux qui était limite, je pense que c'est un incident de course.
C'est un incident de course, à mon avis. Ouais. C'est un incident de course. Il n'y a pas de pénalité.
Ouais, c'est ça.
C'est plutôt même légèrement Russell qui est en position défavorable, je pense. C'est pas un 50-50. Pour moi, c'est un 60-40, 66, un 2/3, 1/3 Russell. Perez était là légitimement à sa position.
Ouais.
Russell ne l'était pas. Au même virage, on a vu une pénalité beaucoup plus grave arriver. Mais bon, là, dans ce cas-là, c'était... l'incident était beaucoup plus avancé, alors que là, on l'était moins. Je pense que Russell était un petit peu plus fautif quand même.
Ouais, exactement. Donc, et heureusement pour lui, ça en est bien sorti. Puis, au moment où je regarde le fil Twitter, ben, il n'y a pas d'enquête. De toute façon, c'est passé à côté. Donc, Russell va garder son podium. On va parler des Français, en fait. Esteban Ocon.
Sébastien Ocon. Appelons-le comme ça pour la FFL.
Oui. D'ailleurs, on salue la FFL si vous nous écoutez. Donc,
on vous aime beaucoup.
Ah oui. On vous aime beaucoup directement de Montréal. En espérant aussi que vous portez attention au Canadien de Montréal lorsque la saison va commencer.
Ah oui.
Mais Sébastien Ocon, 4e place. Vraiment, malgré le fait qu'il y ait une pénalité de 5 secondes pour son accrochage avec Yuki Tsunoda au départ, il a très bien fait quand même, le pilote français.
Ouais, il termine 8e, c'était propre pendant le Grand Prix. Le rythme était intéressant, sa faute sur Tsunoda était complètement inexcusable. C'était évident qu'il allait avoir la pénalité. Quiconque pense le contraire devrait regarder la reprise encore comme il faut.
Ouais,
c'était propre. Les deux Alpines sont au top. Ce qui est bien de voir une équipe française au moins à la maison obtenir de bons résultats. Pareil pour Fernando Alonso qui était en feu aujourd'hui quand même, la 6e place.
Ouais.
Il a profité de l'abandon aussi quand même de Charles Leclerc, sinon il aurait été 7e et 6e place. Sa place Alpine, légitimement 4e au constructeur. C'est à eux de la défendre, la 4e. C'est pas tant à eux de la perdre, c'est vraiment à eux de la défendre. La voiture marche bien, c'est à eux d'aller chercher les points. S'ils la perdent, c'est parce qu'ils auront fauté visiblement, donc il faut tout donner pour pouvoir garder la 4e place. Une belle impulsion quand même pour Alpine.
Ouais, puis en plus, on parle pas beaucoup d'Esteban Ocon. Excuse-moi.
Sébastien Ocon.
Sébastien Ocon. Mais Sébastien fait un excellent travail cette saison. Il est constant, mais passe souvent sous le radar. Et encore une fois, aujourd'hui, comme avec la direction télé qui était vraiment moyenne aujourd'hui, on a manqué quelques de ses dépassements. Donc, vraiment, Ocon, aujourd'hui, je pense que c'était la première fois qu'il marquait des points en plus à son Grand Prix national. Donc, ça a donné un sacré gros boost aussi. Autant, et en plus, c'est une victoire pour Alpine en soi de se retrouver devant McLaren qui, je trouve, vraiment est en chute. On parle beaucoup de Daniel Ricciardo, mais la voiture semble régresser, je trouve. Oui, il marque des points.
Ça stagne.
Mais ça stagne. Ça stagne.
Ça stagne.
Donc,
comme dit Pierre-Houd, si la voiture n'avance pas, c'est parce qu'elle recule comme parce que tout le monde amène des innovations. Donc, si vous n'améliorez pas votre voiture, c'est pas vous stagner, vous reculez. C'est la preuve, encore une fois.
Exactement. Puis là, ben, McLaren vient de perdre la quatrième place. Puis je sens que Alpine va continuer en espérant qu'il n'y ait pas de problème de fiabilité. Mais sinon, l'autre Français, Pierre Gasly...
Pierre Fantominus, on va l'appeler.
Oui, oui.
Si vous connaissez les Pokémon, vous connaissez le nom des Pokémon français. Voilà. Pierre Gasly, Pokémon Gasly,
my God.
En France, Fantominus.
Donc, Fantominus, ben, ouais. Disons que...
J'espère que la FFL l'entend.
Alors, je vais aller taguer la FFL. Mais justement, ça tombe bien parce que c'était une performance fantomatique de sa part.
Ah oh oui, est-ce qu'on l'a vu une fois pendant le Grand Prix? Oui, on l'a vu.
Une fois, mais tu sais, il finit 12e.
Il finit 12e à l'extérieur des points, mais c'est une voiture qui va nulle part. C'est même pas que Tsunoda est mauvais, c'est la voiture qui est exécrable.
Ouais.
Tsunoda mérite de rester en Formule 1, je pense. Je pense qu'il a un certain talent quand même, mais... Oh. La voiture, c'est une catastrophe.
Ouais, ouais, non, vraiment, là. Autant je disais l'année dernière, ça allait être une surprise, ce qu'il a été quand même. Cette année, c'est une énorme déception parce que on s'attendait à mieux. Mais vraiment, je crois que...
Oui, c'est sûr que tu nous donnes brouillon, mais la voiture est une catastrophe. On le voit avec Pierre Gasly, c'est un bon pilote. Mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait là, il n'est pas tout à fait dans ses bottes. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a eu l'équipe qui a fait un reportage en marge du Grand Prix qui parlait de certaines difficultés du côté de Pierre Gasly, en fait, de Pierre Fantominus. Et on voit finalement que, voyez, ouais, pas tout qui se place. C'est très curieux chez AlphaTauri, mais bon... Une mauvaise voiture contribue en rien à la performance physique et mentale des pilotes.
Ouais, non, ça aide vraiment, mais vraiment pas le fait d'avoir une voiture sous-performante comme celle-là. Puis là, en plus, ben, tu vois, l'écurie Aston Martin a marqué un point. Bon, c'est un point.
Avec presque un accident à la fin quand même.
Ah oui, écoute, c'est pas assez proche d'avoir un accident entre inter-équipe. Heureusement, Lance Stroll
Lance Stroll qui devient le Kimi Raikkonen, je pense.
Oui, ouais, c'est
un beau Leave Me Alone.
Oui.
Bien senti, digne de Kimi Raikkonen.
Ah oui, ça c'était vraiment, mais vraiment bien senti. Puis bon, ok, Raikkonen, Stroll n'a pas gagné, mais il a marqué un point. Il est resté devant Vettel, il a tenu le coup, mais.
Super départ.
Oui.
On l'a pas mentionné, il a gagné 5 places au départ.
Oui.
Lance Stroll des beaux jours, ça. Un gars qui est capable de gagner énormément de positions au départ. Chose que qui l'a aidé pour monter en Formule 1. Qui était très bon au début de sa carrière en Formule 1, qui là maintenant fait moins parce que la voiture est exécrable. On le sait, là, la voiture a beau être belle, mais ça reste un déchet.
Ouais.
Mais il a connu un des meilleurs départs des deux dernières années en Formule 1 quand même.
Ah oui. Ah oui, vraiment, là, il a été. Il a vraiment été, ça a vraiment été un Lance Stroll classique des beaux jours.
Ouais.
Donc, vraiment, c'est ce qui l'a aidé finalement à marquer ce point. Parce que, d'accord, il y a eu l'abandon de Leclerc, ça, on s'entend parce que.
Oui, oui.
Parce que c'était le, je pense.
Ouais, mais quand on est dixième, on peut légitimement espérer des abandons pour essayer de progresser dans la grille. Alors que quand on est 3e, 4e, 5e, c'est davantage au forcing qu'il faut aller chercher position.
Hein. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, on s'entend, Leclerc, c'était le seul pilote de tous ceux qui ont abandonné, c'était le seul qui était dans le top 10. Donc.
Ouais. Parce que Stroll commence 15e, finit 10e. C'est une super performance.
Oh,
alors
oui.
Que Sébastien Vettel commence 12, finit 11.
C'est ça. Donc, vraiment, Stroll a fait le travail qu'il fallait. Et là, en plus, bon, là, c'est 19 pour Aston Martin contre 27 pour AlphaTauri. Donc. Si...
Ben comme la AlphaTauri semble stagner, il y a peut-être une occasion à prendre pour Aston Martin, mais il faut quand même faire évoluer cette voiture. Donc, mais quand même, marquer un point aujourd'hui pour fêter les 100 ans d'Aston Martin, c'est très bien.
Oui.
D'un point de vue corporate,
ça...
marquer des points, c'est positif.
Exactement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et puis, chapeau à Sébastien Vettel d'avoir conduit la Green Pea.
Oh, que c'était beau, ça.
C'était magnifique. C'était magnifique pour célébrer justement les 100 ans de la marque. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter notre l'épisode Histoire de F1 qui retrace en fait l'histoire de Aston Martin en Formule 1 avant évidemment leur retour l'année dernière. Sinon, on va parler de Nicolas Latifi.
On l'a vu pour les mauvaises raisons à l'écran.
Ouais, exact. Mais quoi que dans F1 Live, je l'ai vu effectuer un beau dépassement sur Valtteri Bottas. Donc ça au moins ça égalise, mais disons que sur le feed international, on a effectivement vu l'accrochage avec Kevin Magnussen qui aurait été fatal pour sa course puisqu'il a dû abandonner, tout comme K-Mag aussi. Mais c'était un incident de course, c'était juste du hard racing qui s'est mal terminé en fait.
N'eût été de l'abandon de Charles Leclerc qui a causé la voiture de sécurité, est-ce que la stratégie en début du Grand Prix, selon toi, de Haas à s'arrêter très tôt pour changer les pneus, faire deux arrêts, aurait pu leur permettre de marquer des points aujourd'hui?
Magnussen, je pense qu'il pouvait marquer peut-être une 9e place max. Parce que je voyais, il a fait un excellent départ de 20e à 13e. Il a été excellent, puis disons qu'il se rapprochait des Aston Martin. Je pense qu'il aurait pu aller marquer au moins un point, je pense. Mais et ça, c'est peut-être sans l'accident de Leclerc.
Parce que là, il termine dernier.
Ouais.
Puis avant-dernier, parce que Zhou Guanyu a abandonné, évidemment, là, mais disons, voiture qui voit le drapeau à demi termine dernier.
Ouais, parce qu'en même temps, t'as eu Schumacher qui a été victime de l'accrochage avec Zhou Guanyu aussi.
Oui, c'est vrai. Donc, aussi. Mais je me disais, est-ce qu'ils sont en train de sortir un lapin du chapeau? Est-ce qu'ils peuvent faire une super performance là-dessus? Est-ce qu'ils peuvent vraiment transformer puis marquer des points? Je trouvais ça assez cheeky comme stratégie. Puis finalement, on n'a jamais vraiment pu voir si la stratégie aurait marché.
Non, c'est ça. Ça a peut-être pas marché. Ils sont peut-être fait avoir par leur propre stratégie au final. Donc, c'était bien tenté, mais...
Ouais, là-dessus, ça, c'est sûr. C'était bien tenté. Il fallait le tenter, de toute façon.
Ouais.
Quand on est Haas, il faut essayer de tester des choses comme ça. Il faut qu'une équipe tente d'être un petit peu outside the box, comme on dit.
Mm-hmm.
Et ça n'a malheureusement pas payé, mais bon, il y a eu un concours de circonstances parce que pendant ce temps-là, Haas reste 7e avec 34 points, tu sais. Ils essaient de défendre un peu leur 8e place par rapport à Alfa Tauri. Alfa Romeo peut-être trop loin avec 17 points d'avance par rapport à eux. Donc, ouais, ils savent très bien que la 7e place, il faut essayer de la défendre jusqu'à la fin du championnat.
Exactement. Puis la semaine prochaine pour le Grand Prix de Hongrie, ils vont amener leur fameuse évolution de la voiture. Donc, j'ai bien hâte de voir.
Il y a des chances de marquer des points surtout.
Ah oh, oui, puis ils paraissent vraiment bien... en Hongrie en plus. Donc, il y a une opportunité en or pour l'écurie américaine d'aller chercher des points. On le souhaite pour eux. Donc, voilà. On a fait pas mal le tour de la course de Formule 1. Là, on va aller faire le tour dans les séries de soutien parce qu'il y avait la Formule 2 et la série W. Disons, la série W, je ne vais pas vous apprendre que c'est encore une fois Jamie Chadwick qui a remporté l'épreuve au Castellet.
Elle est trop forte.
Elle est trop forte, mais cette fois-ci, elle a eu un peu plus de défis puisqu'elle était partie 3e. À l'origine, elle avait inscrit la pole, mais a eu une pénalité pour avoir franchi la sortie de la ligne des puits, carrément les 4 roues. Donc, elle a perdu son temps, mais elle a gagné la course quand même. Devant Belén Garcia, qui obtient son premier podium en série W, et Nerea Marti, Basky Vessel, qui était partie première en première place, finit 4e, et Alice Powell complète le top 5. Donc, au classement des pilotes, Chadwick a 125 points. Abby Pulling est deuxième avec 55 points, et Vessel, 3e avec 53 points. Belén Garcia est 4e et Nerea Marti 5e avec 44. Donc, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le top 5. Et la prochaine course, si je ne me trompe pas, alors que je vais aller le chercher, je pense que c'est en Hongrie. Effectivement, c'est la semaine prochaine en Hongrie, à Budapest. Donc Chadwick qui aura l'opportunité de remporter non seulement une sixième victoire consécutive cette saison, mais aussi une huitième victoire consécutive, puisqu'elle avait remporté les deux dernières épreuves à Austin l'année dernière. Donc, et vous pouvez suivre la série W sur RDS. Je pense que la course est le samedi, entre autres. Et en Formule 2, eh bien, il y avait évidemment le sprint et la course principale. Dans le sprint, c'est Liam Lawson qui a remporté l'épreuve devant Jarun Daruvala avec un magnifique dépassement dans les derniers tours. Théo Pourchaire avait fini troisième, mais avait une pénalité pour avoir, je pense, forcé un autre pilote. Je pense que c'était Felipe Drugovich hors piste. Donc, il a eu une pénalité de 5 secondes et a chuté à la 7e place, ce qui fait en sorte que Drugovich complète le podium. Jack Doohan termine 4e et Frédéric Vesti complète le top 5. Dans la course principale, Logan Sargeant, le pilote américain, dont on parle pas beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de Colton Herta comme étant le prochain pilote américain à aller en Formule 1, mais on parle pas beaucoup de Logan Sargeant, qui est un membre de l'équipe Williams. Il partait en pole, mais malheureusement, un problème mécanique a ruiné ses chances de victoire. Et c'est Ayumu Iwasa, un pilote qui fait partie de l'Académie Red Bull, qui a gagné la course. Au moins Théo Pourchaire s'est repris avec une deuxième place et je crois qu'il la garde cette fois-ci. Et Frédéric Vesti complète le podium. Felipe Drugovic termine quatrième et Jack Doohan complète le top 5. Et je vais vous donner le classement.
Au classement, c'est Philippe Drugovic avec 173 points, suivi par Théo Pourchaire 134 et Sargeant à 116. Drugovic est parti pour avoir un seul... visiblement, parce que là, on vient de passer la mi-championnat. Le Castellet marquait la transition de la première et la deuxième partie du championnat. Là, le prochain Grand Prix dans c'est Budapest.
Ouais.
Donc, Drugovic est à 173, c'est au prochain à 134. Sargeant, comme il a juste marqué un point, contrairement à 20 et 19 pour les deux autres, ben se détache un peu, recule, alors que Théo Pourchaire devient légitimement le deuxième pour battre Drugovic. Mais Drugovic a une avance quand même assez conséquente là, de 39 points. Ça va être difficile de le rattraper, j'ai l'impression, Drugovic, malheureusement pour Marc-André, qui adore Théo Pourchaire. Je pense que Théo Pourchaire va devoir sortir de très, très grandes performances et espérer que Drugovic en connaisse de mauvaises pour pouvoir gagner le championnat de Formule 2 cette année.
Exactement, parce que là, il reste, disons, 8 courses, vu qu'il y a le sprint et le feat et la course principale. Donc, tout est encore là.
10, parce que Budapest, Spav, Zandvoort, Monza, Yas Marina.
Oui. Mes excuses. Donc, 10 et 5 manches à faire. Donc, effectivement, Drugovic semble parti pour la gloire. Et comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, la prochaine épreuve, c'est à Budapest. Et j'ai envie de terminer, en fait. Tu sais, Jean-Sébastien, quand je te disais que je gardais ma performance au top, je vais la donner à Sage Karam. Parce que...
Ça, c'est quelqu'un qu'on n'a pas entendu parler depuis longtemps.
Exactement. Puis, on l'a vu, entre autres, on l'a seulement vu aux 500 000 d'Indianapolis. Mais samedi, Karam participait au Explore de Pocono Mountains 225, une épreuve de la série Xfinity en NASCAR.
Donc, la deuxième division. Hein.
Exactement. Et c'était une course avec une signification super importante pour lui, puisque... En 2015, Karam, qui était en IndyCar, menait la course sur le Trioval de Pocono en Pennsylvanie, donc sa course locale en plus. Mais avec 21 tours restants, il part à l'erreur au virage 1, tape le mur. Ensuite, il y a plein de débris éparpillés sur la piste et dans les airs. Malheureusement, un museau de sa monoplace a atteint la tête de l'ancien pilote de Formule 1, Justin Wilson. Qui l'a mis inconscient et le lendemain, il est décédé. Naturellement, ça a affecté Karam qui fut envahi par la culpabilité de cet accident, même si on sait qu'il n'était pas responsable du décès. C'était juste un freak accident, en fait. Mais malheureusement, tu as certains imbéciles qui lui ont envoyé des messages haineux, en plus de lui souhaiter de mourir. Et c'est quelque chose qui a duré pendant des années. Malgré le soutien de ses pairs, dont Stephen Wilson, qui est le frère cadet de Justin et lui-même pilote, l'accident à Pocono en 2015 a vraiment affecté Karam. Et en 2018, il décida de retourner sur le circuit, mais en tant que spectateur pour l'épreuve IndyCar. Cependant, il a vu Robert Wickens subir ce violent accident dont encore j'ai du mal à regarder les images parce que c'est terrifiant. Et ça a laissé l'Ontarien gravement blessé avec, il est paralysé encore. Heureusement, il est retourné en course automobile. Mais Karam se sentait vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Puis dans l'article de Jeff Gluck dans The Athletic qui date de mai, le père de Sage racontait qu'il avait vu son fils en position fœtale parce qu'il était vraiment traumatisé par les événements qui ont eu lieu sur le tracé pennsylvanien. Et en plus, Wickens est un grand ami de Sage. Donc, entre-temps, il y a eu des épisodes de dépression et il n'a pu obtenir un volant en temps plein à IndyCar. Mais il a fait quelques pistes dans la série depuis, entre autres avec Dreyer et Rainbow Racing. Il participe aux 500 000 d'Indianapolis. D'ailleurs, son meilleur résultat, c'était l'année dernière, en 2021, avec une 7e place. Cette année, il fut classé 23e malgré un accident qui a mis fin à l'épreuve avec un tour restant. Mais n'empêche, il fallait que Karam retourne sur sa piste locale, étant originaire de la Pennsylvanie, pour mettre le douloureux épisode d'août 2015 derrière lui. Or, ben, heureusement pour moi personnellement, l'IndyCar ne va plus à Pocono depuis 2019, Dieu merci, parce que c'est un circuit...
C'est un circuit qui est extrêmement dangereux.
Extrêmement dangereux, puis dans le passé de l'histoire de l'IndyCar, il y a eu tellement d'accidents. Mais en NASCAR, il passe par le Trioval. Donc, samedi, dans la voiture numéro 45 d'Alpha Prime Racing, Sage a fini 20e dans une course mouvementée et d'ailleurs qui a été marquée par l'accident spectaculaire, mais heureusement sans heurts de Jeb Burton, qui a fait un tonneau en plus. Et en dépit du fait que Noah Gragson, avec Gragson à Road America après un contact entre les deux et causant un carambolage. Gragson a gagné la course. L'objectif de Karam, c'était de franchir la ligne d'arrivée et de pouvoir passer à autre chose. Donc, pour ça, c'est mission accomplie. Et juste pour ça, là, c'est ma performance au top de la fin de semaine. Peu importe ce qui se passe, parce que de mettre fin à un chapitre super douloureux qui change la vie d'un pilote, un décès d'un pilote change une vie, d'un confrère, d'un ami, là, ça change une vie. Et dans le cas de Sage Karam, ça l'a énormément affecté. Et ce désir de retourner à Pocono, juste passer ce fameux virage 1, et en plus de finir dans le top 20, là, c'est vraiment une performance exceptionnelle. Donc, je lui lève mon chapeau. Et d'ailleurs, allez lire. Si vous êtes abonné à The Athletic, je vais mettre le lien sur les réseaux sociaux de l'article en question de Jeff Gluck au mois de mai. C'est un article vraiment touchant. Donc, vraiment, Sage Karam, chapeau. C'est une performance en or. Probablement, la performance... Est-ce que je pourrais dire une des performances de l'année, tout sport confondu dans les circonstances?
Tout sport confondu quand même, oui, obligé.
Obligé, ouais, parce que c'est vraiment mettre un épisode douloureux de côté.
C'est le genre de personnage qui va sans doute avoir une nomination ou... ESPNY, je ne sais plus comment ça s'appelle, les prix de ESPN.
Les ESPYs.
Les ESPYs.
Ouais. D'ailleurs, que Carl Larson a remporté devant un certain Max Verstappen, d'ailleurs.
Ouais, espèce de, d'histoire, les belles histoires, là, la résilience, la détermination de soi. Ça a des chances d'être nommé ou d'être présenté ou d'être souligné.
Ah oui, oui, pas le choix. J'espère que ESPN va prendre compte de...
Surtout que ça se déroule aux États-Unis, donc les chances sont élevées.
Exactement. Donc, Sage, quand même, encore une fois, chapeau. Et c'est ce qui complète là-dessus cet épisode de l'après-course du bulletin GP. Donc, on va se retrouver jeudi pour l'épisode habituel de la balado diffusion. Et on se retrouve en plus dimanche pour l'après-course du Grand Prix de Hongrie, la dernière avant les grandes vacances d'été. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Évidemment, on n'oublie pas aussi les gars de l'équipe de la Monoplace. Vous pouvez vous rejoindre le groupe Facebook La Monoplace. Et écoutez tous les anciens épisodes de la balado diffusion sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et autres. Et aussi, on a notre site bulletingp.com. D'ailleurs, je viens de publier la deuxième édition 2022 de D'IT Pensée qui parle de la situation assez folle avec Alex Palou, Chip Ganassi et McLaren. Une vedette qui veut aller en NASCAR, entre autres, je ne vous dis pas lequel, mais allez lire, c'est sur le site bulletingp.com. Jean-Sébastien, un énorme merci.
Un immense plaisir.
Donc, c'était vraiment très content de te réentendre, et surtout avec plein de références à la Fédération française de la loose, qu'on salue d'ailleurs.
Nos préférés,
effectivement. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve jeudi pour la balado diffusion originale et la semaine prochaine pour l'après-course du Grand Prix de Hongrie. Salut tout le monde!